Les nuits de France Culture. En 1964, Radio Caroline commençait à émettre depuis un bateau battant pavillon panaméen, ancré dans les eaux internationales au large des côtes anglaises. Et cette même année 64, depuis le Galaxy, ancré dans l'estuaire de la Tamise, étaient lancées les premières émissions de Radio London. La naissance de ces deux radios pirates, devenues mythiques, marquait le début d'un chambardement sur les ondes qui allait repeindre la radio du nord de l'Europe aux couleurs de la rock et pop musique et inspirer après elle d'autres expériences de radio pirate offshore. Dans Mégahertz, en 2010, Joseph Confavreux revenait sur l'histoire des radios pirates britanniques des 60s en mettant en parallèle celle des radios libres en France. Il le faisait en compagnie de l'historien des médias Thierry Lefebvre et de Jean-Marc Fonbonne, qui fut entre autres l'un des fondateurs de Radio Nova et sur notre chaîne, l'un des producteurs de l'atelier de création radiophonique. Une émission au cours de laquelle était rappelée l'expérience avortée de la déesse de la démocratie en 1990, après le massacre de la place Tiananmen, et celle que mena au Moyen-Orient Abinathan avec Voice of Peace, une radio qui, entre 1973 et 1993, émettait depuis un bateau pour s'adresser aux populations d'Israël et des pays arabes dans le but de les rapprocher et d'œuvrer ainsi pour la paix. Mégahertz, les radios offshore, une émission diffusée le 22 mai 2010 sur France Culture.
This is a journey into sound.
Mégahertz, la radio sous toutes ses fréquences.
Welcome to the fascinating world of audio frequency.
Mégahertz, tous les samedis sur France Culture.
This is a journey into sound, into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Pump up the volume, pump up the volume.
Wait a minute, you better talk to my mother.
And now, hour on.
This is Caroline on 319, your all-day music station.
Good afternoon.
This is us. We're back.
319, Radio Caroline.
From the MV communicator in international waters, we are Laser 558.
Il lui donne le radio, merci.
Il est 17h34 sur Radio Miamigo International, au micro toujours Patrick Dubateau.
Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
La semaine dernière, nous vous avons parlé dans Mégahertz des liens intimes existants entre la radio et la mer et nous poursuivons en quelque sorte cette exploration maritime puisque c'est de stations de radio installées sur des bateaux dont il sera question ce samedi mais de manière toute différente puisque c'est l'histoire, la légende et la postérité des radios offshore et des radios pirates qui sont à notre menu du jour. Pour cela, direction principalement la mer du Nord mais pas seulement puisque les radios offshore ont essaimé aussi bien en Adriatique ou en Méditerranée qu'en mer de Chine. Alors, pour discuter de ces radios embarquées, je suis avec Jean-Marc Fonbonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de Radio Nova, vous avez aussi été président ou secrétaire général, on ne sait plus trop, de l'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes, même vous, vous ne savez pas, hein. C'est pas moi qui ne sais pas seulement. Vous étiez ici auparavant à France Culture, un des producteurs des ateliers de création radiophonique, et d'ailleurs en 1977, vous avez consacré l'un de ces ACR aux radios pirates, ça s'appelait La Vérité décolle mieux par vent contraire, c'était consacré aux radios pirates à la fois anglaises, italiennes, françaises. Ce terme de pirate, il était important pour vous dans les années 70, au moment où vous étiez l'un des piliers de cette association pour la libération des ondes ?
Il était d'autant plus important que la même année où j'ai fait cette émission, en 77, nous avons fait ici, de manière pirate, à la radio, la première émission manifeste de Radio Verte, qui a été faite dans les studios du rez-de-chaussée, avec la collaboration de techniciens de la maison d'ailleurs, tout ça dans la plus parfaite clandestinité. Oui, pirate à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose pour nous, oui.
Alors pour parler avec vous de ces radios offshore et pirates, je suis aussi avec Thierry Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous historien, vous êtes auteur notamment d'un ouvrage paru chez Nouveau Monde Édition intitulé « La bataille des radios libres, 1977-1981 ». Ce terme de pirate que vient d'évoquer Jean-Marc Lombonne, au début il est quand même employé par les autorités britanniques plutôt comme quelque chose de péjoratif. À partir de quel moment il apparaît, il est revendiqué comme au contraire quelque chose de positif dans cette histoire de la bataille des radios libres?
Et de point de vue, il y a les autorités évidemment qui ne supportent pas qu'on utilise la radio à des fins non réglementées en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, il y a les trublions dont faisait partie M. Fombonne qui cherchent justement à bousculer, en particulier en France mais également en Angleterre, le monopole et à transformer en quelque sorte le paysage radiophonique. Et donc le terme pirate a une double connotation, effectivement des gens qui agressent l'ordre établi dans la logique de ce qui se passait au XVIIe, XVIIIe siècle sur les océans. Et de l'autre côté, le pirate romantique, le pirate à la Minelli, je dirais, qui est un personnage extrêmement sympathique, qui va contre-courant et qui permet de déboucher sur des horizons différents.
Alors effectivement, vous parliez de monopole. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays européens ont imposé un monopole strict de la radiodiffusion, qui en gêne certains. C'est en 1958 qu'émet pour la première fois une radio offshore. Elle émet vers le Danemark et se nomme Radio Mercour. L'idée est simple, diffuser depuis les eaux internationales à quelques encablures des côtes permet de n'être pas soumis aux lois du pays où on diffuse, mais aux lois du pays dont le pavillon domine le bateau où est installée la radio. Cette première expérience va être suivie de nombreuses autres à destination des côtes scandinaves, néerlandaises ou anglaises, extrait du foisonnement de ce qu'on pouvait entendre à proximité de la mer du Nord dans les années 60.
Radio Mercour fylder 2 år. Totalt udsolgt til Mercours fødselsdag.
Radio Mercour vil blandt andet bringe den.
Men musik og musik er jo i høj grad flere ting.
Radio Mercour frasejlet.
Radio Veronica på 92 meter med Veronicas jukebox. Druk op de knop.
Go, go, go. Radio Veronica.
Pour nos auditeurs d'expression française, Radio Helen Spiegel présente « Il y a de la musique ».
Me voilà, chers amis, bonjour. Notre premier disque d'aujourd'hui sera interprété par Rosalie Dubois. Il s'intitule « Dieu soit loué ».
Sur mon chemin.
Vous venez d'écouter « Il y a de la musique », une émission de Radio Helen Spiegel.
Beste luisteraars, u krijgt nu dans tot middernacht. Een bond programma van dansmuziek allerhande. Zang, ritme en sentiment maken ook van deze avond weer een echte gezellige avond. En dat wenst u Radio Uilenspiegel.
This is Radio City broadcasting on 299 meters in the medium wave. And the time? It's 11 o'clock.
What's this? What's this?
Big T, Big T, Big T, stay tuned.
The Radio Tower.
Time on 3 is now 5:31.
Radio Nordsee, hallo Radio Nordsee, hallo Radio Nordsee, hallo Radio Nordsee, hallo Radio Nordsee.
Je le disais en introduction, cette édition de Mégahertz est consacrée à l'histoire des radios offshore, mais aussi à leur légende, à la manière dont cette histoire a été construite et reconstruite, Thierry Lefebvre. Vous êtes historien, il y a déjà sans doute un premier élément qu'on a donné, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine souvent, les pionnières n'étaient pas britanniques, mais plutôt scandinaves, ou danoises, pour la toute première. Une deuxième légende, c'est que toutes ces radios offshore, situées donc dans les eaux internationales pour contourner les législations, se trouvaient sur des bateaux, alors que beaucoup étaient en fait sur des îles, sur des forts. Et même, pour la dernière dont on entendait un extrait, là, dans le passage précédent, Radio Nordsee, une île artificielle avait été construite. Vous parliez des pirates romantiques, mais là, on est quand même dans, du coup, des radios qui ont des moyens pour aller jusqu'à parfois construire une île.
Oui, alors il y a, à mon avis, mais Jean-Marc Fonvon me rectifiera éventuellement, il y a plusieurs types de radios pirates. Il y en a certaines qui sont extrêmement luxueuses, par exemple Radio North Sea International, dont on parlera peut-être plus tard en 70, qui était sur un véritable, c'est pas un paquebot, n'exagérons pas, mais un véritable bateau très bien aménagé, et d'autres radios qui sont aménagées sur des rafios, qui ne valent pas un clou, qui sont rachetés d'occasion sur le marché des navires d'occasion. Et il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que ce que vous soulignez, c'est qu'il fallait très souvent des financements. Et globalement, le modèle d'une radio pirate, à l'époque, c'est effectivement un bateau qui est souvent racheté à l'étranger par rapport au pays qui est ciblé, donc bateau allemand racheté pour une radio offshore anglaise, qui est rebaptisé, on ne garde pas le même nom de la radio, on lui trouve un nom plus agréable. Il faut un pavillon de complaisance, donc il faut aller négocier ce pavillon auprès du Panama, du Nicaragua, etc.
C'est toujours les mêmes, c'est bien.
Toujours les mêmes.
Ça n'a pas changé.
Et autre chose qui n'a pas trop changé, sauf peut-être, mais bon, c'est à voir, c'est l'emplacement de la société qui va gérer les fonds qui vont servir à alimenter cette radio et surtout à la faire fructifier, qui se trouve très souvent au Liechtenstein, dans des paradis fiscaux, voilà. Et donc la question du financement est globalement assez mal, me semble-t-il, même si je ne suis pas spécialiste à proprement parler de l'histoire des radios offshore, assez mal abordée par les historiens de la question, parce qu'il y a quand même des... Parfois,
le financement des radios libres, globalement, ça a toujours été une question. Mais quand même, sur cet aspect, je suis d'accord avec vous que ce foisonnement des radios offshore est hétérogène, qu'elles sont elles-mêmes assez variées, comme le seront plus tard les radios pirates françaises. Néanmoins, elles sont quand même toutes plus commerciales, elles sont souvent financées par la publicité. On n'aura pas ce débat, ce grand débat qu'on aura en France entre les radios qui veulent de la publicité et les autres. Est-ce que quand même, Jean-Marc Fonvon, vous estimez que ces radios offshore, notamment britanniques, sont les matrices des radios pirates françaises, mouvement auquel vous avez participé?
Elles sont les matrices, oui et non. Elles sont les matrices parce qu'elles ont indiqué à tout le monde que des choses interdites étaient possibles. Ça, c'est la première matrice. Mais moi, je m'intéresse peu à la manière dont les financements sont opérés, parce qu'on a vu des différences de financement aussi quand les radios libres sont apparues en France. Je dirais, il y a eu des radios comme celle que j'ai fondée, Radio Nova, qui avaient de l'argent, et puis il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je fais plutôt une différenciation sur les programmes. C'est-à-dire, ce qui est frappant dans les radios de la mer du Nord, c'est que c'est pas tellement qu'elles soient commerciales, c'est qu'elles sont essentiellement musicales. Il y en a très peu qui sont des radios militantes. Quand quelques années plus tard, les radios libres pirates d'abord, puis libres après, apparaissent en Italie, là le distinguo il est clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de radios militantes d'extrême gauche, associatives, et puis il y a aussi toujours sur l'eau de radios commerciales. En fait, avec le temps qui passe, ce qu'on voit, c'est que la première ébauche qui en fait était les radios officielles en mieux, c'est-à-dire en plus moderne, avec une musique plus adaptée à la jeunesse de l'époque, ont été simplement un élément de starter. Pour moi, le phénomène des radios de mer du Nord, il est surtout séduisant à cause de son côté piraterie de haute mer, quoi, son côté romanesque. Mais je dirais qu'en termes de contenu, il apporte strictement rien.
Mais comment alors est-ce qu'on explique qu'il n'y ait aucun bateau qui soit amarré au large des côtes françaises? Il y avait quelques auditeurs, hein, pouvaient entendre en Normandie, notamment il y avait quelques programmes en français, y compris sur des radios comme Caroline. Mais pourquoi est-ce que il n'y en a pas eu en France comme ça, des radios offshore, à la fois dans leur côté romanesque?
Mais d'abord parce qu'on a fait une loi.
Jean-Marc Fonvon.
On a fait une loi qui est une loi très 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 dure, qui sanctionnait les gens qui émettaient en direction de la France. C'est-à-dire que on a été beaucoup plus répressif dans l'intention, puisque bon, les choses ne sont pas produites, mais on a été beaucoup, mais comme toujours d'ailleurs en France, et on commence toujours par vouloir être très répressif, et après on lâche petit à petit tout ce qui est à lâcher. Donc les Anglais, eux, ils ont toléré longtemps, ils avaient fait une loi en 67, si je me souviens bien, la loi de défense maritime, mais ils ont mis très très longtemps à l'appliquer, puisque tout ça dure pendant des années.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les postes périphériques jouaient aussi un rôle en France pour diffuser cette musique qu'on entendait sur les offshore?
Bien sûr, il y avait un certain nombre d'émissions qui apparaissaient à cette époque-là, Salut les copains, etc., qui servaient d'amortisseurs, je dirais, en France. Il y avait un certain type de musique, qui plus est de la musique pop adaptée à un public français, avec des vedettes créées pour l'occasion, Johnny Hallyday, etc. L'autre différence, je dirais, c'est que les musiques offshore vont s'appuyer sur la musique anglo-saxonne, anglo-saxonnes, très massivement, et donc vont toucher très spécifiquement des publics anglo-saxons, donc Angleterre, mais également des pays, je dirais, un peu limitrophes, c'est-à-dire Hollande, je dirais un peu l'Allemagne, même si là aussi ça sera répressif assez rapidement, qui font que c'est plutôt ce genre d'auditeur qui sera visé.
Je vous interromps parce que vous étiez en train de me faire ma transition, parce qu'effectivement le succès des radios offshore tient à ce qu'elles sont au diapason quand même de l'émergence de la culture pop et rock britannique. Je vous propose que pour prendre la mesure quand même de l'innovation musicale proposée par ces radios installées sur des bateaux, on écoute un mix entre ce qu'on pouvait entendre la même année sur la BBC et sur deux des plus emblématiques des radios offshore, Caroline et Radio London.
This is the BBC live program.
Wakey wake!
Mrs. Dale's Diary, a recording of the daily happenings in the life of a doctor's wife.
Good morning, ladies. Our first request this morning is from Mrs. Ada Spillington, Oak Lodge, Crawley, Sussex. She says you'd like some jolly music to help you start the day, so what about this?
From Radio Caroline South, it's the Dave Lee Travis Show!
Don't you know, Mommy? Oh, this is your man Roscoe. It's the Emperor Roscoe Show, and I want to thank Dave Lee, Weird Beard Travis for a fantastic 3 hours. Yes, indeed, we call him Dave the Fly Killer. Assassin. Last night, got 43 on the wing. Fantastic.
Penny poppers and finger poppers, we're going to do the thing right here with the Emperor Roscoe on Caroline Sour.
And everybody here.
If we want to sell it. If you want to tell everybody what you've got, radio's the way to do it. Radio London is the very spot.
For further information about Radio London and what it can mean to you, contact Radlon Sales Limited, 17 Curzon Street, London. Do it today.
Call Mayfair 5361.
Et sur ce goût de la recherche musicale quand même, et puis aussi de la manière de l'amener, parce que ce qui fait la spécificité des offshore, c'est aussi, on l'entend là, c'est le ton, c'est pas seulement le type de musique diffusée, c'est par exemple la mise en avant du DJ, on écoute un animateur, et la manière dont il lance les disques, pas seulement la musique qu'il lance. Est-ce que quand vous, après, vous allez faire Nova, c'est ça quand même qui vous sert de cadre de référence, Jean-Marc Fombonne?
Mais c'est plus qu'un autre mode de lancement, c'est déjà une technique de mixage. C'est une technique de mixage qui n'existe pas ailleurs. Et je pense, moi je n'étais pas là en 69 quand l'atelier création radiophonique a été créé, mais je suis à peu près certain de pouvoir dire que c'est tout ce qui est, tous ces sons-là ont nourri aussi la naissance de l'atelier création radiophonique, puisque après nous, c'est ce travail-là qu'on va,
ce travail de la CR qui va nourrir Nova.
Et c'est ce travail de la CR qui va nourrir Nova. Mais c'est la première fois, effectivement, qu'on entend à la radio des messages un peu sophistiqués avec des ruptures brutales, avec de l'écho, toutes les choses que ne faisaient pas à l'époque les postes périphériques. Oui, il y a une vraie invention technique, ça c'est sûr.
Et il y a quand même aussi, alors là c'est pour l'aspect, revenir à cet aspect un peu commercial, Thierry Lefebvre, l'importation de formats américains qui sont les jingles, le top 40, les hit parades, là on est clairement sur l'importation d'un modèle.
Bien sûr, le disque jockey de toute façon est une invention américaine qui existait déjà sur des radios implantées sur le territoire américain bien avant, et d'ailleurs un certain nombre des DJ qui sont opérationnels sur ces radios offshore seront des Américains. C'est un modèle qui existe. L'utilisation, on l'a très bien entendu avec Caroline et Radio London, l'utilisation des jingles, la capacité d'improvisation, le ton est également très décontracté, qui va à l'opposé du ton guindé des présentateurs de la BBC ou des différentes radios de l'ORTF à l'époque, font qu'il y a évidemment une nouveauté, un ton jeune, je dirais, et qui va toucher justement ce public jeune.
Cette passe nouvelle des animateurs, des DJ, aiguisait parfois la concurrence entre radio et entre bateaux, mais en dépit de ces rivalités marines et radiophoniques, qu'on se représente souvent le mouvement des radios offshore comme un mouvement uni dans sa lutte contre le monopole d'État. En réalité, ce n'était pas toujours le cas, puisque je voudrais vous faire entendre deux archives étonnantes. Le journal annonçant le meurtre du directeur de Radio City par le responsable d'antenne de Radio Caroline, et l'extrait d'un direct de Radio North Sea, alors que les concurrents de Radio Veronica viennent de lancer une bombe incendiaire sur leur bateau.
Radio
South Carolina Newsbeat, fast and factual.
Ce matin, Reg Calvert, le manager de nombreux groupes pop dont les Fortunes et célèbre propriétaire de la radio offshore Radio City, a été abattu dans une maison de campagne près de Saffron Walden, dans le comté d'Essex. Un homme assisterait la police dans ses investigations sur la fusillade. Ces deux dernières semaines, une ombre de mystère a flotté sur les agissements de M. Calvert, des informations contradictoires ayant circulé au sujet de l'avenir de sa radio. Lundi dernier, il a demandé à un détective de Scotland Yard d'enquêter sur un supposé abordage de sa station de radio par des inconnus. Vous écoutez Radio North Sea International. SOS, 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 SOS. Radio North Sea International depuis le navire radio Mebo 2. Latitude 52 degrés 11 minutes, longitude 4 degrés 16 minutes. À 4 miles de la côte hollandaise, à 1 mile du navire radio Northern Eye of Veronica, nous allons bientôt devoir abandonner le bateau. Un feu s'est déclaré sur le pont de la salle des machines. L'incendie est hors de contrôle. Are having to abandon ship very soon. The bridge and the engine room are on fire. The fire is taking control of the ship. Le feu a été causé par une bombe jetée à bord depuis un petit bateau à moteur. Une petite vedette avec un moteur de hors-bord. Une petite vedette avec un moteur de hors-bord. Nous ne savons pas à qui elle appartient. Nous ne savons pas d'où elle venait, où elle se rend. Mais une chose est sûre, la bombe incendiaire a été lancée depuis son bord. Le feu a été causé par l'explosion dans la salle des machines.
L'histoire de ce meurtre du directeur de Radio City, elle est particulièrement rocambolesque, puisqu'en fait d'abord des gens de Radio Caroline avaient abordé Radio City, puis du coup c'est pour ça qu'il s'était rendu au domicile du responsable d'antenne qui lui-même se sentant menacé l'avait finalement tué. Ça montre que contrairement à l'image qu'on en a, effectivement il y avait des luttes pour les parts de marché, des luttes politiques, des luttes peut-être aussi sur les politiques d'antenne. La bataille des radios libres dont vous parlez, vous, Thierry Lefebvre, dans votre livre, elle n'a jamais été jusque-là, jusqu'à de telles extrémités, mais il y avait quand même une concurrence parce qu'on était brouillé, parce que on se battait pour la place.
Oui, alors évidemment, on n'a jamais atteint ce niveau de heureusement dans la bataille des radios libres. Il y avait quand même des rivalités très très fortes et qui étaient souvent des rivalités qui avaient pour prétexte des idées politiques, hein, donc des clivages politiques entre les différents acteurs. Mais dans l'ensemble, il y a eu quand même une certaine solidarité dans ce mouvement qu'il n'y a pas eu ou très peu eu avec le mouvement offshore. C'est-à-dire qu'avec les radios pirates, on a tendance à mythifier avec le recul, mais effectivement, il s'agissait de s'emparer, comme vous l'avez dit.
Alors pour préciser, les radios pirates, souvent, c'est les radios en France avant la fin du monopole. Et les radios libres, c'est à partir de 1980, pour comparer, c'est-à-dire que toutes les offshore étaient des radios pirates, mais voilà, je fais cette incise.
Oui, d'ailleurs, c'est encore plus compliqué que ça, puisque les défenseurs des radios offshore se regrouperont au sein d'une association qui défendra la free radio, donc la radio libre, mais la radio libre au sens où on ne paye pas de taxes à la BBC, au sens où on échappe au monopole. Donc un sens double qui est différent de celui du mouvement français. Les radios libres françaises ont été plus unies que les offshore. Les offshore étaient beaucoup moins unis parce qu'il s'agissait effectivement de s'emparer de parts de marché avec un marché publicitaire qu'il fallait se partager, il fallait se montrer plus puissant aussi bien au niveau de l'émetteur que de l'installation générale, et parfois il fallait impressionner l'autre, quitte même à le faire chanter, hein, puisqu'on a eu des radios qui s'implantaient sur les mêmes fréquences d'autres radios offshore pour les brouiller et qui demandaient en échange de l'arrêt de ce brouillage une certaine somme. Ça s'est vu dans le mouvement.
Il vous est arrivé, Jean-Marc Fonbonne, d'avoir eu envie de lancer une bombe incendiaire sur une radio libre concurrente? Maintenant, il y a prescription, vous pouvez le dire, vous ne l'avez pas fait, mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir eu cette envie?
Non, parce que nous, on se foutait éperdument de ce que faisaient les autres. Nous, on avait une ligne esthétique qu'on essayait de poursuivre, étant donné, on risquait pas de se battre, il n'y avait pas de possibilité de gagner de l'argent. Donc, d'abord, on a été interdit, et ensuite, pendant un an et demi ou deux ans, je me souviens plus très bien, vous me corrigerez, la publicité était interdite. Donc, les parts de marché n'étaient pas une cause de conflit. Alors, on avait des divergences esthétiques les uns avec les autres, mais les divergences esthétiques n'avaient strictement, en ce qui nous concerne, aucune importance.
Mais en revanche, ce qu'on a vu à partir de 81, c'est quand même des situations plus tendues. Il y a un bon exemple, c'est une radio type commercial qui s'installe sur la bande FM parisienne, donc courant 81, j'ai plus la date précise en tête, qui s'appelait Radio Cosmos et qui se met sur la fréquence d'une petite radio qui s'appelait Radio Gulliver. Pour défendre Radio Gulliver, considérée comme le petit pousset, la gentille petite radio, un certain nombre de radios parisiennes vont s'unir et vont aller dans les locaux de Radio Cosmos pour occuper ces locaux et ne partiront qu'au bout de, je crois, 24 heures avec satisfaction, c'est-à-dire arrêt des émissions sur la fréquence de Radio Gulliver.
Jean-Marc Fonbonne.
Une petite précision sur cette époque. Les banquiers, qui étaient déjà aussi pertinents qu'ils le sont aujourd'hui, avaient spéculé sur le fait que Radio Nova était un des projets qui gagnerait beaucoup d'argent. Donc on avait des banques puissantes derrière nous. Et Baudecroux et Énergie, lui, n'en trouvaient pas, parce que personne ne croyait à son projet. Donc c'est nous qui l'avons aidé à rentrer dans la banque où on était. On leur a dit, bon, ben, vous avez la radio qui va marcher, inévitablement, vous l'avez bien compris, c'est Radio Nova, mais la petite Énergie, faut lui donner une chance quand même. Donc, les banquiers doivent nous remercier aujourd'hui.
En fait, ils spéculaient à la baisse. Le meurtre du directeur de Radio City par un membre de Radio Caroline parachève donc en juin 66 une série d'événements rocambolesques au large de l'estuaire de la Tamise, avec des radios offshore qui en abordent d'autres, effectivement des jeux de brouillage. Et tout cela sert de prétexte aux autorités britanniques pour passer une loi d'interdiction totale des radios offshore. En 1967, s'invente donc une sorte de nouveau genre radiophonique, l'émission de clôture d'antenne.
Maintenant, l'information que vous attendiez tous, le projet de loi sur la radio marine est passé. Radio London a le regret d'informer ses auditeurs qu'après 3 années de diffusion, elle va devoir fermer son antenne à la mi-août. Et c'est Ringo. Je veux juste vous dire salut à tous, les auditeurs de Radio London, car, comme vous le savez, nous allons disparaître des ondes. C'est dommage, et la radio ne sera jamais plus pareille, mais c'est comme ça. Salut. À notre pendule, il est 3h et Radio London termine maintenant ses émissions. Vous écoutez Radio 270, émettant sur 1115 kilocycles sur la bande passante des ondes moyennes. Dans 1 minute et 30 secondes, il sera minuit et nous terminons nos émissions. De la part de toute l'équipe de 270, du technicien, du capitaine, de l'équipage et de tous les collaborateurs de Radio 270, restez à terre. Russ Diamond vous dit que Dieu vous bénisse, bonne nuit et adieu. Radio 270 s'arrête maintenant.
Radio 270 is now closing down.
Bon, de la part de toute l'équipe de Radio Scotland, non pas adieu, mais au revoir. Chers auditeurs de Radio North Sea International, l'heure est venue pour nous de nous dire au revoir. Nous aurions aimé rester, mais comme vous le savez, le gouvernement néerlandais a banni la diffusion de programmes radio depuis des navires croisant hors des eaux territoriales des Pays-Bas depuis le 1er septembre 1974. Et nous ne tenons pas à faire quoi que ce soit d'illégal. Notre seule alternative est donc d'obéir à la loi et de cesser d'émettre. Une fois de plus, nous aimerions vous exprimer nos sincères remerciements et vous adresser nos meilleurs vœux pour l'avenir. Et qui sait, peut-être nous entendrez-vous encore dans le futur. Au revoir. Dach Frieden. Dieu vous bénisse tous.
La clock tickt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
Chaque radio offshore a son style au moment où elle doit cesser ses émissions, ça peut être grandiloquent, ça peut être l'hymne écossais, ça peut être l'émotion, ça peut être le compte à rebours. Mais ce qui me surprend, c'est qu'à l'exception d'une radio sur laquelle on va revenir juste après, quasiment tout le monde se conforme à cette loi d'interdiction de 1967. Comment est-ce qu'on explique, Thierry Lefebvre, un tel légalisme chez des radios censées être des radios pirates ?
Il faut dire que la loi de 67 est quand même assez sévère, puisqu'elle ne se contente pas d'essayer de réprimer les émissions en dehors des eaux territoriales. Elle réprime toutes les personnes qui aident la radio, donc les personnes qui sont potentiellement sur le bateau, mais également à l'extérieur, ceux qui les ravitaillent, ceux qui leur fournissent de la publicité, ceux qui leur fournissent des disques, etc., etc., et indirectement également les sociétés qui permettent le fonctionnement financier de ces radios. Beaucoup d'acteurs vont devenir extrêmement méfiants. Hein. Le phénomène a existé également pour les radios libres. Hein. On a vu dans la période 77-81 un certain nombre de défections de soutien sous la pression des pouvoirs publics qui réprimaient soit une association qui était porteuse du projet de la radio libre en question, ou cherchait... Il y a un bon exemple, par exemple, c'est quelqu'un qui sera peut-être à l'écoute, qui s'appelle Daniel Fellendler, qui était dans une radio libre qui s'appelait Radio Aventure, qui était un grand amateur de radio pirate et d'enregistrement, et qui avait fourni une émission sur le thème des radios pirates pour cette radio qui s'appelait Radio Aventure. Et les policiers sont allés perquisitionner chez lui et chez un camarade pour retrouver les documents et les bandes en question et pour le poursuivre ensuite en justice. Et ça sera l'une des plus fortes condamnations dans le cadre du mouvement des radios libres. Donc toute cette pression fait que beaucoup d'acteurs se sont retirés en dehors, effectivement, d'une certaine radio.
Mais on n'a pas eu ce genre radiophonique de la fin de la radio. On a eu un autre genre, c'était la saisie de matériel à l'époque, Jean-Marc Fonbonne. La saisie en direct, ça c'était un autre genre radiophonique.
Oui, c'était la saisie de matériel, chose que moi j'ai pas vécue, puisque c'était à l'époque où on s'exposait médiocrement, puisque nous on travaillait ici, mais on grimpait pas sur les toits. Mais Antoine Lefébure, qui a été en France, à mon avis, le type le plus important dans le développement des radios libres, et véritablement le moteur central, lui montait sur les toits et était pourchassé par les voitures goniométriques, les flics, etc. Et il était obligé de raser les murs plus souvent qu'à son tour, oui, oui. Bien sûr.
Il est tout juste 15h sur France Culture. Vous êtes à l'écoute de Megahertz qui évoque ce samedi les radios offshore, les radios pirates et la manière dont elles ont à leur tour influencé en termes de format et de politique radiophonique les radios libres françaises. Je suis pour cela en compagnie de Jean-Marc Fonbonne, cofondateur de Nova et ancien, on ne sait toujours pas, secrétaire général ou président de l'Association pour la libération des ondes, ainsi que de Thierry Lefebvre, historien des radios libres. Alors par rapport à cette loi d'interdiction totale des radios offshore qui passe en 1967 en Grande-Bretagne, une va s'opposer, qui va devenir pour cela la plus emblématique des radios offshore, à savoir Radio Caroline. Au moment où la loi d'interdiction passe, c'est un gouvernement travailliste mené par le Premier ministre Harold Wilson qui est au pouvoir. Radio Caroline décide donc de faire d'Harold Wilson sa tête de turc, au point de mener campagne lors des législatives de 1970 contre les travaillistes et pour les conservateurs.
Vous écoutez Radio Caroline sur 199, la radio 100% musique. Radio Caroline voudrait étendre ses remerciements à M. Harry Wilson et son gouvernement travailliste pour avoir enfin reconnu, au bout de 3 ans, la légalité de cette radio, son droit à exister, son droit à émettre en direction de la Grande-Bretagne et du continent, son droit à offrir de la musique et des services aux Européens, ce qu'elle fait depuis le dimanche de Pâques 1974. En retour, nous reconnaissons le droit de nos auditeurs à choisir librement les programmes de radio qui leur plaisent. Et bien sûr, Radio Caroline vous appartient. C'est votre radio, même si elle ne vous coûte rien. Et comme nous entrons dans cette nouvelle phase de notre histoire radiophonique, vous pouvez être sûr que nous voulons continuer d'émettre, car nous vous appartenons et nous vous aimons. Caroline compte sur vous. Caroline. Vous êtes sur Radio Caroline International, berceau de l'explosion musicale britannique. Maintenant, rapprochez-vous de vos transistors, parce que nous avons un enregistrement exclusif et très spécial, concocté par des gens très spéciaux, qui sont passés dans le studio, qui l'ont fait spécialement pour nous, anonymement. Leur groupe s'appelle The Opposition. Rapprochez-vous, je veux que vous chantiez, sautiez sur place et criez... Radio Caroline et Liberté. Pour qui nous prends-tu, Monsieur Wilson?
si tu crois que la radio libre est morte. C'est nous qui allons arrêter ton petit jeu. C'est nous qui allons te faire revoir ta copie. Alors pour qui nous prends-tu, Monsieur Wilson? Si tu crois que la radio libre est morte. Pour qui nous prends-tu, Monsieur Wilson? Une chanson signée The Opposition, enregistrée pour Radio Caroline International. Il n'y a rien à ajouter, nous réentendrons ce titre tout au long de la semaine. À suivre sur Caroline, les informations de 8 heures, Mark Wesley.
Next on Caroline, the news at 8 o'clock, read by Mark Wesley.
Information du jour et de l'année. Victoire du Parti conservateur sur les travaillistes par plus de 40 sièges d'écart. Edward Heath n'attend plus que la réception de la reine et la reconnaissance de sa victoire par Harold Wilson pour prendre ses fonctions de Premier ministre à la tête d'un gouvernement conservateur.
Les conservateurs qui vont effectivement gagner ces élections législatives de 1970, ça ne va pas changer grand-chose d'ailleurs à la législation. Le pari de Radio Caroline ne sera pas le bon puisqu'ils vont maintenir cette interdiction. Mais comment vous expliquez comme ça que ces radios offshore soutiennent les conservateurs? Est-ce que c'est vraiment une question de conjoncture politique ou est-ce que c'est aussi que se rencontre une logique commerciale avec un parti qui du coup a une politique libérale qui peut satisfaire voilà, le développement commercial d'une radio comme Caroline, Thierry Lefebvre?
Non, c'est purement conjoncturel et on peut pas dire que toutes les radios offshore étaient soit travaillistes, soit conservateurs. Je pense pas qu'on puisse cliver comme ça ces radios. Là, c'est un cas très particulier. Hein. Donc, c'est, à ma connaissance, si je me souviens bien, Radio North Sea International, RNI, qui était une grosse radio offshore, qui prend le nom de Radio Caroline International d'un point de vue symbolique, donc en 70, et qui mise, effectivement, sur le gouvernement conservateur pour éventuellement être légalisé. C'est une histoire extrêmement compliquée, hein, puisque...
Oui, non, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était sur cette logique...
Sans rentrer dans les détails, il a été dit, il y a eu des témoignages à ce niveau-là, que cette radio était plus ou moins subventionnée par les pays de l'Est. Donc la situation
la
était
géopolitique
un peu...
des radios offshore.
Ouais. Et ce fut la seule radio offshore brouillée. Et l'apparition du brouillage qu'on va ensuite connaître avec les radios libres françaises et Dieu sait à quel niveau, naît véritablement de cette action-là.
Jean-Marc Fonbonne.
Il y a une explication qui est beaucoup plus simple. C'est qu'à l'époque, le parti au pouvoir dans tous les pays est le parti qui contrôle les médias. Donc l'opposition favorise toujours les radios libres. Ça a été le cas en Angleterre. Bon, les conservateurs veulent battre Wilson, ils soutiennent les radios libres. En Italie, les démocrates chrétiens qui sont en train de perdre la main soutiennent les radios pirates. Et en France, les socialistes, avant l'élection de François Mitterrand, commencent à dire on va autoriser la libération des ondes. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où ils savent qu'ils ne contrôlent plus l'appareil d'État, ils essayent d'engager un contre-pouvoir, quitte à leur tour après à engager des systèmes répressifs. Bon, toujours la même histoire.
Voilà. Mais alors, quand on parle de crispation des monopoles d'État, ça, on connaît que les réactions d'interdiction ou de brouillage, il y a quand même d'autres types de réactions. C'est-à-dire que, par exemple, la BBC va créer Radio One sur le modèle de Radio London. Ici aussi, à Radio France, il y aura des tentatives de faire, par exemple, Radio 7 pour les jeunes. Vous, Jean-Marc Fonbonne, vous étiez à la fois un pied à Radio France et un pied dans les radios pirates. Comment est-ce que vous avez perçu cette manière de réagir radiophoniquement et non pas seulement légalement, je dirais, des autorités?
Mais la réaction des radios, elle vient après l'autorisation des radios libres, en 80, pas avant.
Ah, en 80, mais par exemple, oui, mais... Radio 7, c'est 80, alors que le monopole, il est encore sous
oui, mais c'est à l'extrême limite de la pression que réagissent les
oui,
les
services, la BBC réagit plus vite.
Les services publics. Et effectivement, un certain nombre de modifications radiophoniques vont être entraînées par ces radios pirates devenues libres, mais vraiment, je dirais, de manière concomitante avec leur existence, hein.
Alors l'idée que la plus emblématique quand même des radios offshore, Radio Caroline, soutenait en Grande-Bretagne le Parti conservateur va pour moi déjà à l'encontre d'une certaine forme de légende. Mais sur la part de l'histoire et de la mythologie, j'aimerais qu'on écoute un extrait du film de Richard Curtis intitulé Good Morning England, sorti sur les écrans l'an dernier et qui est une sorte de biopic déguisé de Radio Caroline.
Il est 9h du soir et tous les cucérés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles, sirotant leur Xérès. Mais pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock and roll vont encore une fois monter dans le grand 8 du rock and roll. Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à rebours vers l'extérieur.
Stars avec du Rock All Day and All of the Night.
I'm not content to be with you in the daytime.
L'actualité dans une heure avec moi, John Mayford. En attendant, il vous parle.
C'était l'idée que j'avais lancée au départ. J'ai suggéré que tous vous me demandiez de faire un truc vraiment stupide. Et vous avez envoyé ici des idées par millions. Mais une de ces idées, de très loin la meilleure. Je suis fier de vous annoncer que je serai bientôt le premier à prononcer le mot interdit qui commence par F
sur une radio rock'n'roll du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Mon propos n'est pas de choquer, c'est de distraire.
Mais c'est aussi peut-être un peu pour vous éduquer.
Parce que si vous tirez sur quelqu'un, il meurt. Si vous lâchez une bombe, plein de gens meurent.
Si vous frappez une femme, c'est l'amour qui meurt. Mais si vous dites ce fameux mot, vous constatez que rien ne se passe. Alors maintenant, voilà ce mot spécialement pour vous. Le mot qui commence par F. Faut d'abord passer un petit morceau de musique.
Tu ne peux pas faire ça.
Pourquoi ? C'est juste un mot.
Je comprends, mais je vais t'expliquer la situation. Les autorités nous détestent déjà. Si tu fais ça, ils vont nous haïr. Et peu importe comment, ils trouveront le moyen de nous faire taire.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? On est des pirates. C'est pour ça qu'on est au beau milieu de ce putain d'océan.
Ils trouveront un moyen. Crois-moi, les gouvernements détestent quand le peuple prend des libertés.
Ce film, Good Morning England, il construit une légende que la radio offshore, c'était un collectif, le bonheur dans des conditions matérielles, où de toute façon tout allait bien parce qu'on était tous tendus vers un même but. C'est aussi parfois un peu l'image qu'on a des radios pirates. Est-ce que ça correspond à ce que vous, vous avez vécu ou est-ce que ça fait partie un peu de cette légende justement ? Jean-Marc Fonbonne.
Non, mais non, nous quand on a, à l'époque où on était pirates, on était dans le bricolage strict et maigre. Donc non, on avait des émetteurs peu performants, on n'avait pas de matériel, on était obligé de se servir de celui de cette maison, monter sur les toits, c'est amusant quand on est jeune, mais enfin c'est précaire quand même. Hein. Donc aucune ressemblance de paysage entre ce qui se passait dans la mer du Nord et dans la Manche et avec ce qui se passait à Paris, aucune.
On l'entendait là dans le choix de cet extrait, ce qui se joue, c'est le ton, les propos. Là, vraiment, les radios offshore ont été pionnières sur ce qu'on pouvait dire ou pas à l'antenne. Thierry Lefebvre.
Je crois qu'il y a une liberté de ton, bon, qui est un peu exacerbée dans le film, où on essaye de faire passer des messages qui n'étaient pas systématiques. On a entendu un certain nombre d'animations de radio pirates qui étaient quand même relativement guindées, si on écoute bien ce qui se dit. Mais il y avait effectivement des DJ qui avaient une personnalité, une façon d'amener les choses qui étaient très spécifiques. Le film est intéressant en soi, mais bon, c'était quand même une comédie, donc déjà il est construit sur le mode comédie qui exclut tous les aspects un peu grinçants que nous avons évoqués jusqu'à présent, et je dirais c'est un film de scout. Moi je le considère plutôt comme ça, ambiance scout, c'est-à-dire tout le monde vit...
Ouais, c'est plus les pirates, c'est les scouts.
Voilà, c'est des scouts modernes en quelque sorte, et il ne faut pas le prendre évidemment au premier degré, parce que les conditions de vie sur ces bateaux étaient souvent extrêmement précaires et difficiles. Il y a des descriptions de nausées collectives dans le cas en particulier des tempêtes et puis de situations vraiment très très difficiles qui ne correspondent pas.
Alors Thierry Lefebvre me fait encore ma transition, puisque la difficulté des conditions de vie que gomme le film Good Morning England, c'est notamment le risque majeur quand on fait de la radio sur un bateau, c'est comme dans tout bateau, le naufrage.
Mayday, mayday, mayday. This is Paul Lynham on board the MV Tyrie. Mayday, mayday. We are on the rocks. We estimate our position to be near Wangaparapara Harbour on Great Barrier Island, on the western side of Great Barrier Island. We cannot transmit on the radio telephone. We can receive. We can receive. We're keeping listening watch on 2182. Anybody hearing this call, please contact the authorities. Mayday, mayday, mayday.
I don't know how long I can stay with you. There, we've gone again. That was rather bad, actually. We've gone aground on Wonga... There. Abandoned ship. Abandoned ship. I'm turning the microphone up loud. Abandoned ship. Abandoned ship. The siren has gone. We are abandoning ship. The siren has gone. We are abandoning ship. The rocks are within swimming distance. I've got to go now. I've turned the microphone up loud. I hope the transmitter holds out. We are abandoning ship. Our position is in the Whangarapara Harbour. I love you, Mum and Dad.
Radio Caroline broadcasting on 319 metres, 963 kilohertz.
Nous sommes désolés de vous annoncer qu'en raison des conditions météo et de toute l'eau qui s'est introduite dans le bateau, nous sommes obligés d'interrompre notre transmission. L'équipage doit maintenant quitter le bord. Bien sûr, nous espérons être à nouveau avec vous le plus tôt possible. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter, nous sommes tous sains et saufs, mais nous voulions simplement vous dire au revoir. Oui, ce n'est vraiment pas une situation plaisante, mais nous ne sommes pas en train de partir et de disparaître. Nous allons rejoindre les canots de sauvetage et nous espérons que nous pourrons bientôt être de retour. Nous reviendrons d'une manière ou d'une autre. Mais pour le moment et de la part de nous tous, au revoir et que Dieu vous bénisse.
Après le genre radiophonique de l'émission de clôture, là c'est presque le genre radiophonique du naufrage, mais j'ai l'impression que ça dit quand même autre chose de ces radios offshore, c'était l'insistance sur tout se passer en direct. Ça par exemple à Nova, c'était pas au départ l'idée, enfin je pense que vous aviez quand même mixé toutes les premières choses ici la nuit, clandestinement, de manière pirate, vous Jean-Marc Fonbonne. Donc est-ce ce rapport au direct, il était comment?
À Nova, rien n'a été fait ici. Ce qui a été fait ici, c'était Radio Verte. Nova a été fait dans les studios de Nova, et donc avec Andrew Orr, on avait déterminé une ligne esthétique qui ne tenait pas compte du direct ou pas direct. Ce qui était pris en compte d'abord, c'était la sophistication des programmes. S'il y avait la possibilité, et évidemment là, au départ il n'y avait pas, de faire ça en direct, parce que matériel manquait, le personnel manquait, etc. On préparait des programmes qui étaient en général multidiffusés. Après, le direct est arrivé petit à petit, mais pour nous, la question du direct ou pas du direct n'était pas une vraie question. C'est-à-dire, c'était la sophistication, la question.
Alors que c'était, Thierry Lefebvre, une vraie question des radios offshore. Là, elle se distinguait par l'insistance mise là-dessus, puisqu'on mettait même en scène en direct les catastrophes.
Oui, mais pas tout le temps. Il n'y avait pas des catastrophes tout le temps. Et il y avait beaucoup de radios offshore qui fonctionnaient avec des programmes pré-enregistrés sur Terre, dans des studios adéquats, ce qui n'était pas le cas de Caroline et de quelques autres, mais il y en avait quand même un certain nombre comme ça. Et en fait, effectivement, vous pointez du doigt quelque chose d'important, c'est cette notion de direct. Mais que faire, à quoi sert le direct si c'est effectivement pour faire des programmes qu'on pourrait réaliser en différé, ça n'a aucun intérêt. Et il va y avoir certaines radios qui vont utiliser ces conditions de direct, en particulier dans le mouvement des radios libres ultérieurement en France. Je pense évidemment à Radio Lorraine Cœur d'Acier, à laquelle vous avez consacré une émission, qui fait appel en direct à la population pour réagir.
Pour la parole des mineurs du bassin de Longwy.
Voilà. Ou je pense par exemple à une autre radio à laquelle vous avez également consacré une émission, qui est postérieure à 81, qui est Carbone 14, et qui crée des événements en direct qui sont falsifiés la plupart du temps. La fausse mort de Mick Jagger ou la prise d'otage dans le studio organisée par Michel Fisbin ou d'autres événements qui reposent justement sur le fait qu'il se passe quelque chose dans le studio, ce qui finalement est rarement le cas dans les radios, en particulier musicales, que nous connaissons actuellement.
La naissance de Radio Nova est liée à Jean-François Bizot et au magazine Actuel. Et Actuel va, en quelque sorte, créer sa propre radio offshore en 1989, en réaction aux événements de la place Tiananmen. Je vous propose d'entendre à ce sujet Christophe Nick, interviewé par Philippe Aubert sur France Inter, dans une archive piochée à l'INA par Philippe Rouy.
Et alors ce bateau, c'était notre rêve, quoi. C'était d'informer en ondes moyennes, parce que BBC ou Voice of America arrose déjà en ondes courtes, en ondes moyennes tous ces paysans qui n'ont rien qu'un tout petit poste de radio, leur donner d'abord des informations libres, puis leur dire qu'il y avait des démocrates en Chine, et voilà, bah, ils vont parler, écoutez-les. Et puis en même temps, et le plus important pour nous, c'était aussi la musique. Un peu ce rêve, comme quand on avait 12 ans et que la première fois qu'on entendait du rock, notre tête explosait, et ben on s'était dit... les étudiants à Pékin nous avaient montré ça. Il y avait une petite radio sur la place Tiananmen et justement elle passait We Are The World en permanence, qui était cette espèce de signe au reste du monde. On est comme vous, nous ne les laissez pas seuls, on a les mêmes soifs que vous de liberté, de démocratie, etc. Et donc pour nous la musique, cette sono mondiale, on voulait en abreuver les étudiants, les jeunes là-bas pour qu'il y ait un truc un peu irréversible, quoi.
民主女神号广播船。
Au départ, on pensait le louer, ce bateau, en Asie. Évidemment, dès qu'on s'adressait à n'importe quel courtier en Asie, il disait au fou. Donc, il a bien fallu l'acheter. Et l'acheter en Europe pour des raisons purement de sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait que ce bateau soit connu pour qu'on ne le coule pas. Donc, tout ça coûtait extraordinairement cher. C'était 8 millions de francs, qui a été financé par un réseau de journaux européens, américains et asiatiques, et des droits de télé et des choses comme ça. Et puis, bah, il est parti le 17 mars de France avec un équipage français, tous des gens de La Rochelle. Et effectivement, on s'attendait à ce que, comme les autorités de Taïwan nous l'avaient promis, à ce que nous n'ayons aucun problème. Et puis, arrivé là-bas, on a eu plein de problèmes. C'était une escale technique où on devait juste monter nos émetteurs parce qu'on ne pouvait pas, là encore, pour des raisons de sécurité. Il faut quand même se rendre compte qu'on était obsédé par ça, que Pékin avait menacé plusieurs fois de nous couler. Et donc, si on avait transporté notre émetteur depuis la France, on aurait été un bateau radio depuis le départ. Et là, les règlements internationaux font que c'était pas très à l'aise d'être sur le bateau à ce moment-là. Donc, on avait un accord avec le gouvernement de Taïwan qu'arrivé là-bas, on met nos émetteurs, on va dans les eaux internationales et on ne demande plus rien à personne. Et voilà, Taïwan, à ce moment-là, a décidé de complètement changer de politique, de, pour la première fois depuis 40 ans, de dire bonjour à Pékin, qu'on va travailler ensemble et que, d'ailleurs, ils vont racheter la Chine, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et la preuve de leur bonne volonté auprès de Pékin, c'était d'arraisonner quasiment ce bateau. Et on est resté 15 jours dans un port, isolé de tout le monde, avec 3 vedettes de flics, 10 flics à bord en permanence, qui empêchaient tout le monde de monter, passeport confisqué, même le matériel bloqué en douane, même les valises. Alors, on a demandé à ce moment-là à aller au Japon, puisque le gouvernement japonais nous avait dit bah, « venez quand vous voulez ». Alors on leur dit « bah voilà, on vient ».
On n'arrive pas du tout. Puis, ça a changé aussi.
Et voilà, là aussi ça a changé. Et quand ils se sont rendus compte qu'on allait vraiment venir, ils ont dit « oulala, mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout les bienvenus, puis vous êtes illégaux, et puis vous êtes carrément hors la loi, et si vous venez, on vous met en prison ». Et là, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas des soldats, on n'a pas fait de stage à la DGSE, on était incapables de faire face. On a donc dû arrêter il y a une semaine.
L'expérience a en pratique été assez peu concluante, hein, puisque aucun Chinois n'a pu entendre les programmes de cette radio offshore. Néanmoins, c'est assez étrange de voir donc les équipes de Bizot derrière cette aventure, pendant que d'autres équipes de Bizot sont, et d'ailleurs parfois un peu les mêmes, sont à Nova. Ça veut bien dire que quand même, cet imaginaire des radios offshore, il restait très très fort. Thierry Lefebvre.
Il y avait effectivement cet imaginaire, mais là, il faut peut-être remonter un petit peu plus loin, par exemple aux radios américaines, au large des différents lieux de conflit après la Seconde Guerre mondiale, des radios d'intervention pour essayer de modifier l'opinion des personnes qui vivent dans tel ou tel pays. Il y a eu plein d'exemples de cette sorte, et on est, à mon avis, plutôt dans ce genre-là. C'est-à-dire que vous avez d'un côté... Alors, je ne connais pas très bien le cas de la DS de la démocratie qui n'a pas, effectivement, à ma connaissance, eu d'émission à proprement parler. Il y a Radio Broad également.
Plus tard, pendant la guerre en ex-Yougoslavie.
Voilà. Donc ces radios reposent souvent sur la volonté d'un certain nombre de structures qu'on pourrait qualifier grossièrement d'ONG, qui veulent intervenir à la suite de faits qu'ils estiment affreux, Tiananmen par exemple, et qui ensuite sont très souvent instrumentalisés par les États, qui sont dans un régime de communication internationale à un moment donné, qui se positionne un petit peu de manière on va réagir, c'est pas bien ce qui se passe là-bas, et puis qui au fur et à mesure passent des accords évidemment un peu occultes et qui font qu'ils se retirent progressivement. Ce genre de situation, on va le retrouver en particulier dans lequel que je connais un peu mieux, celui de Radio Broad, où par exemple le ministre, l'un des ministres de l'époque qui s'appelait Kouchner, avait promis, à ma connaissance, une certaine somme à cette radio, et cette somme n'est jamais véritablement arrivée, ce qui a fait péricliter la chose. Mais on l'a connu également, même pour des situations non offshore, par exemple en France, avec Radio K. Sauf que là, c'était pas un État, c'était le futur État, puisque c'était le Parti Socialiste qui subventionnait une radio installée donc en Italie, à proximité de la frontière française, qui voulait s'imposer comme une nouvelle périphérique, qui est donc aidé, entre autres, par Bizot, qui est présent dans cette histoire également, à Radio K, et qui va émettre pendant un certain temps, qui va jamais véritablement marcher. Quand les socialistes vont arriver au pouvoir, ils vont ne plus aider, ils vont couper le robinet, en quelque sorte, et la radio va péricliter dans des conditions que Jacques Dupont, en particulier, pourrait raconter.
On entendait dans l'extrait Christophe Nick dire on voulait faire entendre la sono mondiale aux Chinois. Alors j'ai bien compris, Jean-Marc Fonbonne, qu'on ne peut pas faire de lien direct entre les radios offshore et l'histoire de Nova, qu'il y a plein de discontinuités, qu'il faut passer notamment par les ACR. Est-ce que quand même, il y avait ce chose commune d'une forme d'émancipation par la musique dans l'objectif de Nova, qui était présent dans les radios offshore?
L'émancipation par la musique, ça me semble un terme un peu excessif, mais... Oui, il y a eu un travail musical qui a été fait à Radio Nova au début, mais qui avait déjà été fait à l'atelier de création radiophonique, où des tas de compositeurs, notamment de musique répétitive, qui n'étaient diffusés nulle part, avaient leur droit de citer. Mais la musique, pour nous, n'était qu'une composante. Quand j'ai quitté Nova et qu'Andrew en est devenu le directeur à ma place, les choses ont continué à peu près de la même manière. Et puis, c'est ce que vous évoquez, la sono mondiale commence après le départ d'Andrew Orr. Et ça, c'est un type de radio que nous... En ce qui nous concerne, nous récusons radicalement. C'est-à-dire, c'est une radio qui nous intéresse pas, parce qu'à ce moment-là, elle devient la seule chose qui la différencie des autres, c'est la différence de sa programmation musicale. Et ce qui, pour nous, est largement insuffisant pour parler d'esthétique radiophonique.
Alors, avant quand même cette tentative datant de 1989, il y avait une autre expérience politique inspirée par les pratiques des radios offshore, qui a duré plus longtemps, puisqu'elle démarre en 1972 et se termine en 1993. Il s'agit de la radio Voice of Peace, installée sur un bateau en Méditerranée par Abinatan, un juif d'origine persane, qui voulait ainsi proposer aux jeunes Israéliens et aux jeunes Arabes une autre voix que la propagande martiale diffusée par Kol Israël ou la voix des Arabes.
Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace.
Peace is the word. And the Voice of Peace is the station, 24 hours a day.
Puisse l'espoir de l'année 1976 être guidé par le principe de vivre, laisser vivre. Faisons de la raison et de la compréhension nos seules lumières, du bonheur notre seul but, de la justice, notre seule adoration, de l'humanité, notre seule religion, et de l'amour, notre seule préoccupation. Et pour atteindre ce moment, nous vivrons ensemble, lutterons ensemble pour une paix juste et sûre, et non pour un nouvel équilibre politique qui ne ferait qu'exacerber les rivalités entre nos peuples. Essayons de trouver un chemin qui permettra à tous de vivre comme des égaux et des partenaires, plutôt que de n'être que des marionnettes entre les mains des grands et des puissants qui utilisent l'humanité comme les pions d'un jeu d'échecs. Devenons plutôt ensemble les architectes de notre propre futur. Mes amis, si la paix doit advenir dans cette région, elle doit venir sans aucune victoire. Parce que la victoire de l'un signifierait seulement imposer les termes du vainqueur au vaincu. Pour atteindre ces objectifs, nous devons tenter de surmonter les peurs et les frustrations d'hier en mettant notre espoir et notre confiance en demain.
Ubishalom toda rabba.
هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kHz.
On est là dans une inversion quasiment du processus des radios offshore britanniques où on se sert de la musique que voudraient entendre les jeunes, ce qui était un peu l'idée des radios offshore britanniques, mais pour leur faire entendre un autre discours politique que ceux que les radios de leurs pays respectifs peuvent leur faire entendre. Mais par contre, les radios britanniques offshore, elles n'ont jamais été à un tel niveau d'engagement politique, Thierry Lefebvre.
Ah non, non. Ben, de toute façon, la situation n'était pas comparable. Là, il s'agit évidemment du conflit entre Israël et les pays arabes. Et le personnage, la personnalité d'Abinatan est absolument passionnante parce que c'était un héros de la guerre. C'était un personnage qui avait une grande cote et qui décide de s'investir politiquement pour essayer de rapprocher les peuples et en particulier les jeunesses des pays arabes et d'Israël. simplement sa radio va toucher plus disons la jeunesse, on va dire occidentalisée d'Israël, donc ça va être une radio très écoutée en Israël, et beaucoup moins la jeunesse des pays arabes, et donc il va échouer plutôt sur cet aspect.
Échouer, c'est un bon terme pour un
bateau. Oui, pour un bateau, c'est excellent, effectivement. Par ailleurs, il commence à émettre effectivement avant la guerre de 73, et pendant la guerre de 73, il se trouve obligé d'arrêter ses émissions au moment crucial où justement le message pacifiste doit passer, dans la mesure où l'État l'oblige. On va le couler, quoi, en quelque sorte.
Merci infiniment Jean-Marc Fombonne, Thierry Lefebvre, d'être venu ce samedi au micro de Mégahertz.
C'était un numéro de Mégahertz que Joseph Confavreux consacrait aux radios offshore. Première diffusion le 22 mai 2010 sur France Culture. Réalisation Laurent Polleret.